Tout de suite, c'est sur les docks, Irène Emelianenko. Bonjour Irène.
Bonjour Hervé Gardette. Eh bien, foot toujours aujourd'hui. Après le Cécifoot et la police des stades, nous allons à Beauvais pour, vous l'aurez deviné, évoquer l'aventure du Red Star. Anna Benjamin et François Test ont mené l'enquête, alors qu'Anne Hidalgo n'avait pas encore annoncé que le Red Star allait partager la saison prochaine le stade Jean Bouin avec le Stade français. Une rencontre est du reste prévue le vendredi 29 juillet 2016 à 20h au 10 stade Jean Bouin.
Et ce couple Stade Français-Red Star sera seulement le troisième à jouer en alternance en France à la même adresse.
Oui, mais pour autant, il ne faut pas penser que les accros du Stade Boer aient baissé les bras. Ils ont lancé une campagne de financement participatif pour la rénovation de leur stade en terminant leur appel par « Le Red Star, c'est seulement à Boer ». Ce documentaire a été réalisé en partenariat avec le mensuel des Curieux de Paris, le magazine 75, où Anna Benjamin propose également un article. Il est temps maintenant de rejoindre ceux qui aiment, défendent et racontent le Red Star.
Qu'est-ce qui fait la spécificité du Red Star ?
Son histoire, son stade.
C'est un club populaire, de banlieue, mélangé.
Bah, c'est son esprit populaire, hein, je pense.
Et puis ses valeurs, qui s'approchent de valeurs familiales. Quoi. Donc on a l'habitude de dire que c'est une grande famille et c'est vraiment le cas.
Le Red Star, exil d'un club de football populaire, par Anna Benjamin et François Test.
Le Red Star, deuxième plus vieux club de football français, c'est un nom mythique, un parfum du passé, une histoire légendaire, des couleurs, le vert, le rouge. C'est aussi une identité populaire, celle de Saint-Ouen, banlieue nord de Paris, ville historiquement ouvrière et estampillée banlieue rouge. Club phare de l'entre-deux-guerres, le Red Star, équipe surprise de la saison, vit une renaissance. Retrouvant la Ligue 2 quittée il y a 15 ans et débutant à la 17e place du championnat, il a touché du doigt la Ligue 1. Il a fini à une brillante 5e place. Désormais, il caresse discrètement le rêve de devenir le deuxième club de la capitale. Mais cette promotion l'a forcé à l'exil. Les supporters et l'équipe ont déserté à contre-cœur leur légendaire mais trop vétuste Stade Boer. Ils ont trouvé refuge sur la pelouse de Beauvais, à 70 km de leur base, dans l'Oise. Le Red Star raconte aujourd'hui l'histoire d'un football populaire qui ne veut pas mourir, entre héritage footballistique plus ou moins fantasmé, football business, culture des tribunes et âme d'un club.
Gilles Saillant, vous êtes supporter du Red Star et fin connaisseur du club. On est ici à l'entrée du stade, devant les trophées du club et devant Jules Rimet, les photos de Jules Rimet.
La photo du créateur, oui. C'est Jules Rimet qui a créé le Red Star en 1897 et il est originaire de Franche-Comté, hein, il n'était pas du tout parisien. Et il a rejoint sa famille, ses parents qui étaient venus chercher fortune à Paris, du côté de la Tour Eiffel, Gros Caillou, à l'âge de 11 ans. Et il a adhéré très rapidement à la démocratie chrétienne. Hein. Il était plutôt démocrate, on va dire. Et il avait pour ambition d'aider les classes les plus défavorisées et de rassembler les classes sociales. À l'époque, fin du 19e siècle, hein, il y avait les ouvriers d'un côté, les cols blancs de l'autre côté, les aristos et tout. Et lui, son but, son idée, c'était de rassembler toutes les classes sociales. Les rassembler comment ? Par le sport. Alors, il a créé le Red Star tout près, toujours dans son quartier du Gros Caillou, près de la Tour Eiffel. Il s'est réuni avec son frère, Modeste Rimet, quelques amis à lui, des bons amis. Et ils ont fondé le club sur une table de café. avec la gouvernante de ses parents, qui était une Anglaise. Et il existait une compagnie maritime qui s'appelait la Red Star Line. Son emblème, c'est une petite étoile rouge, évidemment, sur un drapeau blanc. Et j'ai imaginé qu'on a demandé à l'Anglaise Jenny de donner un nom, de baptiser le club. Et j'ai imaginé qu'elle avait un billet de bateau ou une étiquette de bagage. Et elle aurait crié, ça c'est la légende qui dit ça, Red Star.
Jules Rimet, c'est un personnage important pour le football.
Oui, alors il a créé le Red Star dans sa jeunesse, parce qu'il n'avait que 24 ans seulement quand il a créé le club. Et par la suite, une vingtaine d'années après, il est devenu président de la Fédération française de football. Puis 2 ans après, en 1921, premier président de la FIFA, Fédération internationale de football. Et dans la foulée, ils ont créé la Coupe du Monde. Alors, moi, je suis né à Saint-Ouen. J'ai grandi à Saint-Ouen, à 50 mètres d'ici, avec mes parents, qui avaient un petit appartement dont la fenêtre donnait sur le stade, et on voyait le stade de la fenêtre de mes parents. Mes parents ont déménagé pour aller un petit peu plus loin en banlieue, et j'ai commencé à venir un peu par hasard à l'âge de 16 ans. Je n'ai pas arrêté depuis de venir et je suis devenu supporter passionné et ça m'a fait devenir historien du club avec un autre ami qui s'appelle Pierre Laporte. Et je n'ai jamais cessé donc de venir voir jouer le Red Star depuis 68, c'était octobre 68. Donc ça fait pas loin de 50 ans maintenant.
Alors là, avant, il y avait une maison. Là.
C'était la maison de François. C'était le gardien, c'est lui qui s'occupait de la pelouse. Alors là, la réputation du Stade Boer, c'était sa pelouse. On avait une pelouse extraordinaire, c'est la meilleure de France. Mais bon, il comptait pas ses heures. Hein. Quand il fallait arroser à 4h du matin l'été, il se levait à 4h du matin pour arroser. Hein. C'était un type extraordinaire. D'ailleurs, c'était le seul, il était demandé partout. Il était réclamé à Marseille, Rennes, Sochaux. Après, c'est les municipaux qui sont venus, c'était plus la même chose. Parce qu'ils travaillaient à heure fixe. Hein. Alors il fallait qu'ils arrosent le matin, ils arrosaient même s'il y avait du soleil. Puis une année, on a vu la pelouse, elle était toute jaune. Ils étaient étonnés. Hein.
Et aujourd'hui, la pelouse ?
Bah, la pelouse, ils l'ont détruite. C'est un synthétique. C'est la seule chose qui faisait la réputation de Saint-Ouen. Du stade, hein, parce que moi, quand je suis arrivé en 64, le stade, c'était celui-là. Hein. De 1909, il est quand même. Il était déjà obsolète. Hein. Mais c'était sympa, c'était en carré, on sortait, les spectateurs étaient là, on leur serrait la main et tout, on passait. Ce qui n'est plus possible maintenant, quoi. Ah non, mais il était sympa comme ça, mais attendez, on va aller voir les vestiaires. Vous allez voir, on se déshabillait. Hein.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis voilà, raconter un peu votre histoire avec le Red Star ?
Avec le Red Star, Marcel D'Antoni, j'étais gardien de but au Red Star. De 1964, j'ai fait 3 saisons, hein. 3 saisons, 2 saisons en deuxième division où on est monté, une saison en première et on est redescendu, une saison en seconde division.
Gilles Saillant, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire sportive du Red Star qui a été jalonnée de succès mais aussi de traversée du désert ?
Oui, alors jusqu'à 1910 à peu près, le Red Star avait végété. C'était pas un club très important dans le football français et parisien. Donc il avait végété entre la première et la deuxième série. C'est ce qu'on appelait déjà l'ascenseur, c'est-à-dire monter et redescendre d'une division à une autre. Il est devenu un peu plus important à partir de 1910 et jusqu'à la guerre de 14, avec là des joueurs plus importants, tous internationaux. Ils ont tous joué en équipe de France. Et le club a commencé à faire parler de lui à peu près dans cette période-là, juste avant la guerre de 14. La guerre de 14 est arrivée. Malheureusement, de nombreux joueurs du Red Star sont morts à la guerre. Et le football a été pratiquement arrêté jusqu'au début des années 20. Et c'est la période la plus glorieuse du Red Star, qui va de 1920 à 1930, avec 4 victoires en Coupe de France. Red Star a remporté 4 fois la Coupe en 21, 22, 23. Donc 3 fois de suite, c'était le premier club à réussir cet exploit. Puis en 1928. Donc, ensuite, ça a été un des premiers clubs professionnels. En 1932, début du professionnalisme en France. Il faisait partie des 16 premiers clubs français. Et après, est arrivée la Seconde Guerre mondiale. Le Red Star, pendant cette triste période, a gagné encore une fois la Coupe de France. Sa 5e Coupe de France en 1942. Après On a eu une longue période où il a végété, encore une fois, dans les années 50. Il est retombé un peu dans l'anonymat. Et ça a duré jusqu'à fin des années 60. Où, par la magie d'une fusion avec Toulouse. Saint-Ouen, Toulouse, comme chacun sait, c'est très proche. Et c'est le président de Toulouse, le fameux Jean-Baptiste Doumingue, dit, appelé par la presse, milliardaire rouge, qui s'est fâché avec la mairie de Toulouse, a pris son argent, ses joueurs, il les a proposés à Saint-Ouen. Bon, la mairie est communiste à Saint-Ouen, était communiste depuis 1945 jusqu'à 2014. Donc le Red Star était avant-dernier en deuxième division et il s'est retrouvé par un coup de baguette magique en première division grâce aux Toulousains. Et ça a duré pendant une dizaine d'années jusqu'en 75 où c'est à ce jour la dernière saison en première division parmi l'élite du football français. Mais ça s'est mal terminé, ça s'est mal fini, puisque en 78, le club a été mis en liquidation judiciaire et s'est retrouvé de la deuxième division où il était alors, dans les meilleures équipes de deuxième division, il s'est retrouvé du jour au lendemain en division d'honneur. Et en fait, il a été repris par une nouvelle équipe dirigeante en 2003, Éric Charrier. À l'époque, Luis Fernandez avait mis quelques billes dans le club, mais il n'est pas resté très longtemps, puisqu'au bout de trois mois, il a repris ses bagages, il a quitté le Red Star. Et c'est seulement au bout de 12 saisons que le Red Star a retrouvé la Ligue 2 cette saison.
Et c'était pas comme ça, si ?
Non, c'était en bois.
Ouais, puis il y avait un truc là. Hein.
Faux plafond.
Ouais, il y avait un faux plafond qui descendait là. Là, c'était un bac. C'était un bac à eau pour laver les chaussures. Voilà, on se déshabille. Hein. C'était même plus. Pas si bien que celui-là. Hein. Là, je me mets toujours à la même place. On était superstitieux. Mais oui, c'est que l'espace était quand même assez restreint. Tu vois, il y en avait. Les douches, il devait y avoir deux douches. Il n'y avait pas autant que ça. Il y avait deux douches. Bon, personne ne se plaignait. On était content de jouer au foot. On aimait ce qu'on faisait, puis en plus, on était payé pour le faire. Quoi de mieux, hein ?
Quel souvenir vous avez dans ces vestiaires ?
Les vestiaires, c'est l'année où on est monté en première division. Donc, je crois d'ailleurs qu'on détient le record de spectateurs de l'après-guerre. Hein. C'était contre Reims. Ici, on avait gagné 1-0. Enfin, il y avait du monde partout dans le stade, partout sur les pylônes électriques. C'est parce que c'était des pylônes en ferraille comme la Tour Eiffel, vous voyez. Ils étaient accrochés dans les pylônes, il y a du monde partout. Donc après, bon, on a fait la fête dans les vestiaires. On a même défilé en vivre, sur des voitures et tout. Ben, c'était la saison 64-65. Puis les spectateurs étaient super sympas. Ils chambraient tout le monde, mais ils étaient sympas, ils n'insultaient pas. Bon, de temps en temps, ils nous traitaient de trop payés. Qui était pas... Par rapport à eux, on était bien payés, mais ce n'était pas trop le cas. Quoi. Ouais. Là, je me souviens, on avait un avant-centre qui s'appelait Grochowski, qui avait marqué pas mal de buts. Mais quand il arrivait dans les 18 mètres, il avait tendance à plonger pour avoir un pénalty. Alors le spectateur criait « Attention, il va tomber. Ah, il tombe !» C'était ça, le spectateur de Saint-Ouen. Hein. C'était super sympa. Il n'y a jamais eu d'incident ici. Hein. Jamais.
Ici, debout.
Assis, peut-être, non ?
Assis ?
Ouais.
Allez. Louis, vous êtes supporter. À Boer, on est assis ou debout ?
On est plutôt debout. Enfin, en tout cas, quand on est dans cette tribune-là, on est debout. D'abord, souvent parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'elle est pleine et que si on veut voir quelque chose, il faut se mettre debout. Et puis parce que debout, c'est là qu'on peut chanter, qu'on peut danser et qu'on peut voir quelque chose au terrain aussi, accessoirement. Je viens régulièrement à Boer depuis 7-8 ans. Comme beaucoup de gamins de la banlieue parisienne, je supportais le PSG. En plus, c'était moi, j'étais enfant dans les années 90. C'était le grand PSG des Coupes d'Europe, George Weah, etc. Je dirais pas que je suis passé d'un club à l'autre. Je continue de supporter les deux, mais mon vrai cœur de supporter est au Red Star maintenant. Ce qui est chouette à Bauer, c'est que la tribune où on est, tout le monde se mélange, il n'y a pas de placement, il n'y a pas de numéro de place, donc la question ne se pose pas. Les supporters les plus engagés, les plus expansifs peuvent se retrouver là où on est, ce qui n'est plus du tout possible au Parc des Princes. C'est vrai que je suis pas retourné au Parc depuis des années, mais quand on voit un match du PSG à la télé, on a peine à entendre des chants. Quand on regarde un match du Red Star, c'est l'inverse. On n'entend que ça et on passe 90 minutes à chanter, à entendre les chants résonner, rebondir contre le toit qui est au-dessus de nos têtes. On a l'impression des fois qu'il y a plus d'ambiance à Bauer avec 1000 personnes qu'au parc avec 50 000.
C'est quoi vos souvenirs dans cette tribune ?
J'ai souvenir d'avoir vu des purges quand on jouait en CFA au cœur du mois de février, d'avoir vu des 0-0 affreux dans ce stade, mais d'être heureux quand même d'être là. Et puis à l'inverse, depuis quelques temps, ces dernières années, les résultats sont venus et ouais, il y a eu le match de la montée la saison dernière. Le stade était plein, c'était une énorme ambiance. Et au coup de sifflet final, on a envahi le terrain. Il y avait tous les supporters qui étaient sur la pelouse. C'était une super ambiance de fête. Plus tous ces matchs, pas forcément les plus spectaculaires, mais on est content d'être là.
Ça, c'est le premier terrain où vous avez parlé, je crois, au pied de la Tour Eiffel. Donc, on ne pouvait pas être plus près de la Tour Eiffel. Hein. Le terrain était vraiment sur le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Et puis ça, c'est la tribune. On va monter un peu, on verra. La première tribune qui a été construite. Et au fil des années, les autres ont été construites de part et d'autre. Presque situé au toit, on voit la différence de couleur, différents ajouts de tribunes qui ont été rajoutés. Ça date des années 20, 30.
Quelle est l'importance du stade dans l'histoire du club ?
Depuis 1909, date de son arrivée ici, le Red Star a toujours joué à Saint-Ouen, excepté fin des années 40, le Red Star avait joué aussi au Parc des Princes. En 96, il était fortement question de raser le stade et d'en construire un nouveau, au même emplacement ici. Malheureusement, ça a coïncidé avec la construction du Stade de France. Et le président, Jean-Claude Bras, qui était pour rester à Saint-Ouen, quand il a vu le Stade de France, il a décidé d'aller jouer au Stade de France. Ça ne s'est pas fait. La mairie de Saint-Ouen, qui était prête à rénover et reconstruire le stade Bauer ici, a changé d'avis et a dit que ce n'est pas la peine qu'on reconstruise le stade puisque le Red Star veut s'en aller. Et donc on se retrouve un petit peu dans les mêmes conditions aujourd'hui, 20 ans après. On se dit, si jamais le Red Star monte en Ligue 1, est-ce qu'il ne va pas s'en aller dans un plus grand stade, est-ce que ça vaut la peine d'entreprendre des travaux pour refaire le stade ?
On dit que c'est un stade à l'anglaise.
Oui, c'est un stade à l'anglaise. Bah oui, 1909. C'est un monument historique. Hein. Auparavant, les gens ne venaient pas en voiture. Hein. Ils arrivaient à Clignancourt avec les femmes, laissaient les femmes aux puces, ils venaient voir le match ici, ils les reprenaient le soir. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Les gens venaient avec les sandwichs, ils étaient sur la butte et tout. Ah, c'était folklore. Et bucolique. Hein. C'était bucolique. Pour un jour, le stade à l'anglaise, c'est un stade où vous êtes très très près des spectateurs. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de stades en France où il y avait un vélodrome. Le Parc des Princes, c'est un stade vélodrome. Marseille, c'est un stade vélodrome. Les stades à l'anglaise, vous aviez Lille, Nîmes, Nice. Voilà, vous étiez gardien de but. Hein. Les filets tombaient, vous avez des gens dans le dos. Maintenant, il faut tout. Il faut de la sécurité. Pour le football, il faut séparer les supporters maintenant. Ça devient des histoires de dingue, hein, le foot. Hein, vous savez, je crois que le bus du PSG, il est blindé maintenant. C'est des histoires de fous. Hein, ouais.
Qu'est-ce que le Red Star a de particulier ?
Bah, y a une ambiance. Il y a une ambiance, les tribunes sont très mélangées. C'est un public qui est populaire. Il y a tous les âges. On a des vieux supporters qui sont là depuis 40 ans, à l'inverse des tout jeunes. La tribune qui est juste à côté est remplie des gamins qui sont au centre de formation du Red Star et qui sont là à chaque match et qui chantent. Beaucoup de gens de mon âge, hein, d'une trentaine d'années aussi. Des classes sociales mélangées et tout le monde qui communie autour de cette équipe. Sinon, c'est plus généralement le Red Star, une idée d'un football qui est... qui est populaire, où les places sont pas chères. Moi, quand j'étais étudiant, je rentrais au stade en payant 2,50€. Bah, c'est bien de pouvoir aller voir un match de foot à 2,50€. C'est de plus en plus rare en France.
Est-ce qu'il y a beaucoup de déçus du PSG au Red Star ?
Je dirais pas des déçus du PSG, mais plutôt des gens que l'évolution du PSG n'a pas satisfait, parce que les places sont devenues trop chères, parce que l'ambiance est devenue moins bonne. Un joueur du Red Star qui marque, il vient à la tribune, on peut lui serrer la main, on peut les voir à la fin des matchs. Je me souviens la saison dernière, après le match de la montée, j'étais avec des copains à l'Olympique au café en face. Les joueurs sortent, on voit Samuel Allegro qui était défenseur central depuis des années du Red Star, dont c'était la dernière saison, qui vient nous serrer la main et qui on peut faire des photos. Enfin, il y a une proximité avec les joueurs qui est évidemment impossible avec un club de Ligue 1 et a fortiori le PSG qui lui maintenant joue dans la cour des grands en Europe. Il n'y a même plus vraiment un club qui joue en France, ses objectifs sont ailleurs.
Maurice, vous êtes supporter depuis 50 ans du Red Star. Ce soir, c'est une des dernières journées du championnat. C'est un match un peu particulier, Red Star, Paris FC. On est à Beauvais, dans l'Oise, à 1h de Saint-Ouen. Quelle est l'atmosphère dans le stade ?
L'atmosphère, là, ce soir, il est enjoué. Il y a les supporters du Red Star qui sont là, des gens qui ne venaient pas, qui sont venus. Donc, attention. Donc, là, l'atmosphère, on ne le connaît pas d'habitude, cette atmosphère-là. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est pour le derby. Sinon, il n'y a pas cette atmosphère. On aurait été à Boer, on aurait rempli à chaque fois. Que là, bon, c'est pas du tout le stade Boer. Et c'est pour ça que les gens regrettent à tout prix. Il y a plus de 100 ans à Boer, c'est quand même. Moi, j'ai connu ça il y a 50 ans, c'était fabuleux. Il y avait une ambiance de feu. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais malgré tout, on entretient quand même la flamme.
Pauline Gamer, vous êtes directrice générale du Red Star. C'est quoi votre histoire avec le Red Star ?
Moi, j'ai croisé la route du Red Star en 2008. J'étais chez Dailymotion à l'époque. Et dans le cadre des ateliers artistiques que le club organise depuis 2008, on m'avait demandé d'intervenir sur un atelier vidéo. L'atelier avait lieu au Stade Boer, je me rappelle assez bien de cette journée-là et de l'émotion que j'ai pu avoir avec ces jeunes lors de la journée. Et puis par la suite, j'ai continué à échanger avec le président et en 2009, il m'a proposé de rejoindre l'aventure. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et c'est quoi votre histoire avec le football ?
Moi, j'ai toujours été passionnée de ballon rond depuis toute petite. J'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Je suis beaucoup allée au stade. Alors, j'allais à l'époque au stade Vélodrome à Marseille, parce que je suis née là-bas. J'ai travaillé aussi sur la question du football, parce que quand j'étais à Sciences Po Aix, j'ai fait mon mémoire sur football et identité, les revendications identitaires dans le football en Europe. Et voilà, j'ai toujours été... J'avais pas vocation à y travailler, mais j'ai toujours été passionnée par le football et par tout ce que ça véhicule autour. Dans tout ce que j'ai étudié dans le football, on se rend compte que dans les villes où il y a la plus forte identité, la plus forte ferveur, c'est des villes qui souvent ont connu un passé glorieux, comme Manchester, comme Gênes, comme Marseille, comme Saint-Étienne, comme Lens, comme le Red Star. Et où les difficultés économiques actuelles donnent aux supporters un sentiment de fierté qu'on a perdu avec la situation économique actuelle. Et on redonne un petit peu de fierté, c'est ce que je pense on fait au Red Star.
Qu'est-ce que vous faites concrètement au club pour conserver cet esprit populaire ?
Le premier, c'est de toujours garder cette passerelle entre l'équipe première et les jeunes. Pour donner un exemple, nos joueurs de l'équipe première paient leur licence. Alors ça peut vous paraître anecdotique, mais on est parti du principe que si un gamin de 6 ans dans les quartiers difficiles l'a payé, on trouvait ça normal aussi qu'un joueur de l'équipe première la paye. Mais ils ne la payent pas juste pour la payer. En fait, ils en font une cagnotte. Et en fin d'année, ils choisissent la dépense qu'ils font pour les jeunes du club. On a aussi nos joueurs de l'équipe première qui participent aux entraînements des jeunes. Le deuxième volet, c'est toutes les actions que l'on peut mener pour participer à l'éducation de nos jeunes. On a les 650 licenciés du club. Ils sont là 3, 4, 5 fois par semaine. Après l'école, on est le lieu où ils sont le plus souvent présents. Et donc on a estimé qu'on avait un rôle, une vocation auprès d'eux et de leur famille. On fait du soutien scolaire, mais on fait aussi, lors de chaque vacances scolaires, on organise des ateliers artistiques. Alors ça peut être, c'est des ateliers gratuits, où le matin ils font du football, on les fatigue un petit peu, et l'après-midi on les fait découvrir au contact d'un artiste, une discipline pour réaliser une œuvre collective. Et je pense que donner accès dans un territoire où ils n'ont pas toujours accès à ces disciplines artistiques, ça fait aussi partie du rôle du Red Star.
Le Red Star, ça a toujours été le club des ouvriers.
C'est une banlieue ouvrière, par essence, un peu comme les clubs, les clubs de Londres, par exemple, les clubs anglais. Mais on ne peut pas dire que ce soit forcément un club ouvrier. Moi, j'ai en mémoire, dans les années 60-70, un vrai club ouvrier, c'était Sedan, qui, lui, avait des joueurs qui étaient ouvriers, qui travaillaient à l'usine le matin, qui s'entraînaient l'après-midi et qui jouaient en première division. Bon, ça n'a jamais été le cas du Red Star. C'est un club populaire, avec beaucoup d'ouvriers, parce que jusqu'à peu de temps, il y avait beaucoup d'usines, d'industries à Saint-Ouen, donc c'était forcément, il y avait beaucoup d'ouvriers, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des employés, il y avait des commerçants, donc on ne peut pas vraiment parler d'un club ouvrier, c'est un club populaire.
Vincent Chuté-Maisance, le président du collectif Red Star Bauer, pouvez-vous nous dire un petit peu où on est ?
Alors là, on est au local de l'association, donc, qui est situé dans l'enceinte du stade, à l'entrée où actuellement la tribune principale accueille les spectateurs les jours de match. Donc c'est un peu notre base, on va dire, c'est là où on range un peu nos affaires, c'est là où on vend aussi du matos à l'effigie, on vend des t-shirts, des écharpes, c'est aussi là où, à la mi-temps et surtout à la fin des matchs, beaucoup de gens se rencontraient en fait. Donc beaucoup de gens venaient ici nous demander des nouvelles sur le stade. Nous, on affichait le classement après la fin des matchs. Donc c'était un lieu aussi où les gens communiquaient pas mal. Donc voilà, c'était un peu ce lieu intergénérationnel à l'époque où il y avait encore des matchs ici, bien sûr.
Quelle est votre histoire avec le Red Star ?
Alors moi, mon histoire avec le Red Star, en fait, c'est mon grand-père qui m'y a emmené pour la première fois en 94. Donc j'avais 8 ans. En fait, j'ai grandi à Porte de Clignancourt, donc dans le 18e, c'est à 800 mètres du stade à peine. Et donc du coup, c'était le club à l'époque qui était en division 2, donc le club le plus proche où je pouvais aller voir des matchs de foot. Donc c'est mon grand-père qui m'y a emmené en fait. Donc,
Il y a beaucoup de supporters militants antifascistes au Red Star ?
Il y a beaucoup de supporters du Red Star, en tout cas, qui sont antiracistes, antifascistes et qui se retrouvent dans ces valeurs-là. C'est ce qui rassemble vraiment l'immense majorité des supporters ici. On ressent par les gens qui le composent. Enfin, chez nous, c'est vrai qu'on retrouve un peu vraiment une population qui est en termes d'origine sociale, d'origine... même ethnique, qui est hyper varié. On le ressent déjà par ce côté-là. Les tribunes en France, si vous avez l'occasion d'aller dans d'autres tribunes en France, c'est quand même... les gens sont majoritairement blancs, par exemple. Sont majoritairement... enfin, les tribunes, on va dire que l'orientation, la tendance politique en France dans les tribunes, elle est quand même un peu sale, quoi. Et chez nous, c'est ça. On le disait tout à l'heure, il y a les chants qui marquent énormément. Il y a aussi les événements qu'on fait, normalement... nommément, quand on organise un hommage à Rino Della Negra, qui est un militant résistant, anti-nazi. Enfin, il y a aussi ces actions-là qui font que ça définit bien un peu le cadre, enfin nos valeurs en tout cas dans lesquelles on se retrouve.
C'est quoi vos valeurs ?
Nos valeurs de tolérance déjà, d'antiracisme, d'antifascisme, mais ça se rejoint aussi par l'anti-homophobie, l'antisexisme. Enfin, il y a plein d'autres valeurs. Enfin, on parle souvent d'antiracisme chez nous, mais il y a plein d'autres valeurs qui ont trait à cette fameuse tolérance chez nous.
Vous donnez des exemples de chants ?
Quel chant qui pourrait être déjà le Ou à banlieue rouge, je pense que forcément déjà c'est un peu connoté, on va dire.
Il y en a un qui est quand même très connu. Flic, arbitre.
Ah oui, ah ok, d'accord, ouais. C'est flic, arbitre ou militaire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire ? Pour l'arbitre, bon, c'est même un peu salaud pour lui, parce que c'est quand même très comparaison. Pour le côté du flic ou du militaire, ouais. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas loin de... Enfin, oui, je le pense clairement. Enfin, c'est vrai que... Pareil, ça reste qu'il y a des bons flics, hein. Mais bon, c'est... Voilà, ça reste... Oui, c'est pas très loin de la vérité de ce qu'on pense. Ouais. C'est même la vérité, je pense.
Patrice Haddad, vous êtes président du Red Star. Vous avez acheté le club en 2008. Pourquoi vous êtes intéressé à ce club ?
Je me suis intéressé à ce club parce que je m'intéresse au football. Et on ne peut pas éviter le Red Star quand on aime le football. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au club en 2005. Et donc, voilà, en 2008, CFA et un programme sur 7 ans. 2015 Ligue 2 qu'on a tenu et dans lequel aujourd'hui on évolue. J'ai hérité du bon et du mauvais autour du Red Star. C'est-à-dire le bon, c'est ce que représente ce Red Star en termes de valeur, et le mauvais sont ses infrastructures. Et ce qui est mauvais aujourd'hui a été bon un certain temps, mais ça n'a pas suivi pour accompagner le club et évoluer avec lui au niveau des infrastructures. Il y a un certain confort autour du football français, malgré tout, au niveau professionnel. Avec l'Euro 2016, on voit les stades se rénover. Beaucoup d'argent a été mis dans tous ces stades. Il faut savoir que nous, on grandit dans des infrastructures très, très, très compliquées.
Comment est financé le Red Star ?
Jusqu'à présent, et encore, sont été des fonds privés, essentiellement par mois. Il y a tous les niveaux possibles... dans le sport. On est un club avec peu de moyens.
Attention, on empêche le but. Réaction derrière meurt. On empêche le but derrière. Hors jeu, une. Non, ici, là. Là. Une. Deux. Allez, rouge. Trois. Deux.
Alors, je m'appelle Florian Makedjou, j'ai 25 ans, je suis milieu de terrain du Red Star.
C'est la fin de l'entraînement, on est à Saint-Leu. Vous entraînez souvent ici ?
Non, c'est juste cette saison, on s'entraîne à Saint-Leu pour avoir à disposition des terrains en herbe. Parce qu'on sait que cette saison, on n'allait plus jouer à Bauer, donc il nous fallait un terrain gazonné. Et ils ont eu la sympathie de nous prêter des terrains, des installations. Et voilà, aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi qu'on est là.
Vous avez joué dans plusieurs clubs de la région parisienne. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent de jouer pour le Resta ?
Oui, c'est vrai que étant jeune, j'ai joué à Ivry-sur-Seine avant d'intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain. J'ai un peu ce côté famille, un peu parisien. J'aime bien être près des miens et je ressens dans ce club vraiment ce que j'ai toujours connu, que ce soit au PSG ou à Ivry, un club familial où vraiment tout le monde travaillait pour tout le monde. On s'aidait les uns pour les autres et on sentait vraiment qu'on était une famille. Et c'est quelque chose qu'on ne ressent pas ailleurs. J'ai une autre expérience à Sedan en Ligue 2. Ça a été complètement différent ici, que ce soit les supporters, les bénévoles, ceux qui travaillent pour nous. On est vraiment, tout le monde se croise, tout le monde se parle. C'est vraiment ouvert et c'est ce qui fait, je pense, notre force, parce que c'est vraiment un club de famille. When you walk through a storm,
hold your head up high and don't be afraid of the dark.
Steve Marley, directeur sportif du Red Star.
Moi, c'est un peu spécial dans la mesure où j'ai joué ici en tant que jeune. J'ai été formé ici, j'ai fait mes premiers matchs en tant que pro ici. Et je suis revenu après avoir fait ma carrière à l'extérieur, où j'ai terminé, c'est pas ma carrière, mais en tout cas tout ce qui est football professionnel, j'ai terminé ici et j'ai redémarré une carrière de dirigeant. Alors du coup, aujourd'hui, je peux pas dire ce soit... j'ai une relation particulière avec le club, donc je regarde différemment les joueurs de cette équipe.
C'est quoi les valeurs du Red Star ?
C'est humilité, simplicité, respect. En fait, c'est des valeurs qu'on doit transmettre dans tous les centres de formation. Mais nous, il y a l'histoire du club qui est lourde. Il y a aussi la création, le créateur du club qui est Jules Rimet. Et si vous avez pu vous balader autour de Boer, vous allez voir que les gamins sont très respectueux. Ils disent bonjour à tout le monde, ils enlèvent la casquette, les écouteurs. Et ça, c'est des choses qu'on essaye de perpétuer. Moi, ça va faire 5 ans là depuis que je suis revenu, et j'ai toujours connu ça.
Le Red Star a un des plus petits budgets de la Ligue 2. A priori, c'est pas les millions qui font venir les joueurs. Qu'est-ce qui fait venir les joueurs au Red Star ?
Je dirais qu'il y a la simplicité, l'authenticité. C'est aussi, ça fait partie aussi de nos valeurs. C'est vrai que quand on reçoit des joueurs, on leur vend pas du rêve. On leur parle franchement. Cette année, vous avez pu vous apercevoir, c'est un peu difficile pour nous en termes d'infrastructure. Effectivement, on n'a pas un gros budget, mais lorsqu'on reçoit un joueur, on lui ment pas. On lui parle surtout des valeurs humaines qu'il y a dans ce club, que c'est un club qui c'est une grande famille en quelque sorte. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu de discours un peu à l'eau de rose comme ça, mais lorsque les joueurs sont là et au bout de quelques mois, ils s'aperçoivent qu'on leur a pas menti. Je pense que c'est ce qui accroche. Après, il y a l'aspect financier, bien entendu, mais je pense qu'on y gagne avec notre discours qui peut-être dénote un petit peu du cadre footballistique. On ne parle pas d'argent ici, on parle de valeurs, de simplicité, de famille, tout simplement.
Pauline Gamère, vous êtes directrice du Red Star. Il y a combien de salariés au club ?
Administrativement, il y a une dizaine de salariés. Vous avez donc une petite trentaine de joueurs, trentaine d'éducateurs. Donc si vous rassemblez tout ça, vous êtes aux alentours de 70 personnes. Mais bon, c'est vrai que c'est des secteurs un petit peu différents.
Combien gagne un joueur du Red Star ?
Nous, c'est vrai qu'on a une politique salariale assez rigoureuse. On a un salarié cap de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'on se l'est auto-imposé, nous, on a souhaité le faire. Et on a une moyenne salariale qui va osciller entre 5 et 6 000 euros au sein des joueurs. On est très très loin, en effet, de ce qu'on peut entendre ici ou là sur les joueurs de grands clubs européens. Qu'est-ce qu'on met autour de l'identité Red Star ? On y est très sensible. C'est vrai que ça nous est arrivé plusieurs fois dans le passé de refuser certains annonceurs parce qu'on estimait que ça ne véhiculait pas ce qu'on défend tous les jours. Et une histoire à raconter, ça n'est pas juste payer pour mettre son logo sur un maillot. C'est participer à la reconstruction du club.
Vous êtes un des plus petits budgets de la Ligue 2.
On est à 6,6 millions de budget, je connais pas... encore exactement les budgets des autres clubs, mais je pense qu'on sera dans les 2, 3, 4 derniers plus petits budgets.
Ce ne sont pas les gros moyens qui déterminent les résultats, pas toujours. Bon, on peut effectivement vérifier qu'il y a eu peut-être près de 1,5 milliard qui a été investi avant qu'il y ait une suprématie absolue du Paris Saint-Germain en France. Je ne sais pas combien d'années il va nous falloir pour arriver à ce montant. Mais ça ne me fait pas peur, ces moyens différents. Ce n'est pas une histoire de pauvreté, de richesse. C'est une histoire d'équilibre. Et donc, je pense qu'on sera dans un équilibre complètement différent que celui du Paris Saint-Germain. Mais sur le terrain, à un moment donné, au-delà du talent de chacun, il y a un slogan, enfin un slogan ou une maxime qui nous accompagne, c'est notre cœur, notre force. Et ça, parfois, ça a plus de valeur que les moyens qu'on y met.
Steve Marley, est-ce que la réussite du Red Star, elle passe pas d'abord par la formation des jeunes joueurs ?
Oui, ça c'est une évidence. On essaie, comme je disais tout à l'heure, avec le travail des éducateurs, de former des bons joueurs, des hommes avant tout. On n'a pas de centre de formation, donc on ne fait pas de la formation professionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne signent pas de contrat pro à l'issue de leur formation. Mais on les forme pour être de bons joueurs. D'ici un an ou deux, on va essayer de faire au plus vite pour créer ce centre de formation et de maintenir nos meilleurs joueurs, nos meilleurs jeunes. Donc c'est pas quelque chose qui nous bloque. En tout cas, cette année, ça nous bloque pas. Au contraire, ça va être notre force d'ici 2-3 ans de pouvoir compter sur les meilleurs jeunes de la région. Parce que bon, c'est vrai qu'on cesse de le répéter, l'île de France, c'est un vivier énorme pour les jeunes joueurs. Malheureusement, il y a très peu de structures pour les garder, ce qui fait bien entendu le bonheur de tous les clubs de province. Et nous, on espère être un filtre et de garder les meilleurs jeunes. Alors, bien sûr, il y a le centre de formation du PSG, qui en est déjà un. Il y a aussi Clairefontaine, qui en est un deuxième. Mais dans un bassin de population comme le nôtre, il n'y en a pas assez, donc on espère être le prochain.
C'est la mi-temps au stade de Pierre Besson pour le moment. Et pour le signer à l'hôpital. Profitez de la mi-temps pour vous rendre à la boutique officielle de Red Star, située dans le village, derrière le but.
Nicolas, vous êtes supporter du Red Star.
Ouais.
On est à la mi-temps du match. Il y a 1-2. Il y a une vraie rivalité entre le Red Star et le Paris FC. Vous êtes plus nombreux à être venus ce soir ?
Un petit peu, ouais, parce que Beauvais, j'ai dû faire 2 matchs ici et c'est vraiment mort et incomparable par rapport à Beauvais. C'est mort, vu que c'est trop loin, il y a très peu de monde qui se motive à se taper l'heure et demie de route ou le train où il n'y a pas possibilité de rentrer le soir parce qu'il n'y a plus de train de Beauvais à Paris après les matchs. Donc il y a très peu de chants, pas beaucoup d'ambiance. C'est un peu désolant, quoi.
Vous êtes les éducateurs des jeunes, c'est ça ? Des jeunes du Red Star ?
Oui, moi je suis éducateur en U14.
Et moi éducateur en U11.
C'est important d'emmener tous ces jeunes au match de Red Star, même si c'est à Beauvais ?
Après, c'est l'image du club. On est un club populaire et les enfants, les éducateurs. Donc, oui, pour moi, c'est très, très important.
Et si le Red Star montait en Ligue 1 ?
Ça serait la folie, je pense. ça serait un rêve, quand même. Mais...
Un rêve, mais il faut pour cela que les pouvoirs publics nous aident. Il faut que la municipalité aussi rénove le stade Bauer. Car sans stade, ça va être très compliqué. Mais on a la chance d'avoir un public derrière nous. Et le public du Red Star sera toujours présent pour soutenir son équipe.
Louis, vous soutenez le Red Star. Est-ce que vous avez vu l'arrivée de nouveaux supporters depuis quelques années ?
Ouais, effectivement, moi j'en suis peut-être le meilleur exemple puisque j'étais pas en tribune il y a 10 ans et je m'y suis mis assez récemment.
C'est qui ces nouveaux supporters ?
Beaucoup de jeunes, et puis des jeunes, je dirais, de profession intellectuelle, des profs, des gens qui bossent dans la com, des journalistes. Alors, ce que certains pourraient qualifier de bobos, d'une certaine façon, des lecteurs de SoFoot et compagnie. Mais c'est vrai, on va pas se mentir. Mais c'est ce qui est sympa, justement... à Bauer, c'est que ce public de jeunes bobos ou de jeunes hipsters barbus avec des chemises à carreaux et des bonnets se mélange très bien avec les vieux supporters qui sont là depuis 40 ans, qui sont plus issus de la classe ouvrière, qui sont souvent plus de Saint-Ouen que les nouveaux supporters qui vont être des arrondissements nord de Paris. Après, ce qui est certain aussi, c'est que le Red Star a une image politique. T'es de gauche, tu définis comme antifasciste, comme anticapitaliste, t'aimes le foot, mais viens à Bauer, on peut voir du foot, c'est pas cher, en plus on se fait des copains, éventuellement on peut militer ensemble, etc., etc.
autocollants qu'il y a ici, lesquels sont particuliers? Il y a Bauer United déjà, c'est un slogan qui nous rassemble plutôt bien. Red Star Fan, c'est la bannière principale de notre tribune. La tribune Rino de la Negra, c'est la tribune où on occupe nous. Le Red Star, c'est Bauer rénové. Pareil, tout est dans le titre. Alors ça, c'est pas très tolérant d'ailleurs. Mais c'est à certaines personnes de la tribune qui ont fait un sticker. Un hipster, une tondeuse, je crois que c'est la vague bobo hipster, il y en a qui n'apprécient pas trop chez nous.
Vincent, on est à l'Olympique Café, en face du Stade Bauer. C'est quoi cet endroit?
C'est un peu le bar des supporters du Red Star, c'est le bar où on se réunit avant les matchs.
Et depuis quelques mois, vous avez décidé de boycotter Beauvais. Du coup, vous vous retrouvez ici les soirs de match.
Alors, comme je dis à chaque journaliste, la moitié ne me croit pas, c'est pas un boycott officiel, en tout cas. Enfin, on n'a pas, nous, appelé à faire un boycott. C'est chacun fait ce qu'il veut, en fait. Il se trouve que la majorité des supporters du Red Star ne vont pas à Beauvais. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'y aller. Il y a des gens qui aimeraient bien y aller, mais qui peuvent pas parce que c'est le vendredi. Après, disons qu'il y a en tout cas une majorité des supporters du Red Star qui n'y vont pas.
Et avec cette montée en Ligue 2, est-ce que c'était nécessaire de quitter Bauer ?
Nécessaire, non. Réglementaire, malheureusement. Mais c'est important de faire la distinction, c'est qu'à aucun moment, le club n'a pris la décision de quitter Bauer. Malheureusement, les collectivités n'ont ni eu le temps ni les moyens pour l'instant faire les dépenses nécessaires à la mise aux normes du stade. Et en effet, en Ligue 2, les contraintes réglementaires sont plus fortes qu'en National. En grande partie sur la sécurité. On sait aujourd'hui que c'est depuis Furiani, depuis un certain nombre d'événements, sur les matchs professionnels, il y a des conditions de sécurité qui sont beaucoup plus lourdes que dans les divisions amateurs. Maintenant, on ne désespère pas sur la possibilité d'y revenir en Ligue 2 ou ailleurs d'ailleurs. Mais, ou dans une autre division, je veux dire, quand je dis ailleurs, de revenir à Bauer au niveau professionnel. On est dans des difficultés sur un territoire, il est vrai qu'il y a des grosses difficultés économiques, et dans un stade qui, depuis des décennies, a été laissé à l'abandon. C'est aussi pour ça que les supporters doivent le comprendre, qu'on ne parle pas d'un problème qui est né il y a 2 ans, 3 ans. La question du stade Bauer, elle existe depuis 20, 30, 40 ans. Est-ce que un jour, un maire va être en mesure de créer une énergie collective pour trouver les financements pour rénover le stade Bauer? On l'espère et on accompagnera dans ce sens-là. Mais on a bien conscience que c'est extrêmement difficile. On est attaché au stade Bauer comme on est attaché à la maison de notre enfance. C'est celle où il y a les souvenirs, c'est celle où il y a un parfum particulier, il y a une émotion, les murs ont plein de choses à raconter.
Pierre Laporte, vous êtes supporter du Red Star depuis 1965. Vous venez souvent à Beauvais?
J'ai dû venir 5 ici et à peu près 5 à l'extérieur, plus un match de coupe à l'extérieur. Moi, ça ne me plaît pas du tout de venir à Beauvais, comme tout le monde, mais je suis avant tout supporter du Red Star. Comme je l'ai dit en début de saison et que Haddad a repris le même terme que moi, j'avais dit aux journalistes de France Football, je suis supporter du Red Star. Moi, je ne suis pas supporter du stade Bauer.
Vous n'avez pas peur que le club retombe rapidement en national, ou est-ce que c'est pas un club qui grandit un peu trop vite?
J'ai toujours dit que c'était une start-up qui avait 120 ans, donc il était toujours en reconstruction. On essaie de donner des bases solides de structure humaine. Je pense que les structures matérielles, à partir du moment où on aura des résultats, je pense qu'il y aura une obligation d'accompagner, ou en privé, au niveau des structures, ou en public. Mais pour l'instant, le public ne répond pas.
Le football business, ça vous fait un peu peur ?
Ça nous fait pas peur, ça nous débecte même. Enfin, c'est quelque chose qui nous horripile. Et c'est vrai que, à travers la défense du stade, à travers tout le combat qu'on mène, c'est aussi un avertissement qu'on lance aux dirigeants. Enfin, eux, ils se prévalent d'avoir un club populaire. Nous, ce qu'on ressent à travers ça, c'est la bonne opportunité de faire le club de Beauvau parisien, clairement. Et nous, ouais, voilà, c'est un peu une alerte et un message qu'on met aux dirigeants. Donc, dans le foot business, nous, très peu pour nous, quoi.
Dans le dossier du stade, je crois savoir que vous avez le soutien des plus hautes instances de l'État, de l'Élysée, de François Hollande, qui se dit lui-même supporter du Red Star.
Je pense qu'il aime ce que représente ce club. C'est pas pour autant qu'on a eu une réponse cette année en Ligue 2 sur le lieu qu'on pouvait utiliser, que ce soit le Stade de France, que ce soit le Stade Jean-Bouin, que ce soit un lieu de la Seine-Saint-Denis. Donc ce sont des soutiens très sympathiques, mais on se retrouve quand même à plancher d'une manière concrète sur une réalité qui est qu'à 10 jours du lancement du championnat en Ligue 2, on n'avait toujours pas de stade. Si on ne l'avait pas trouvé, je pense que rien n'aurait pu être fait pour ne pas accepter que le club reparte en division inférieure.
Le Red Star remercie ses partenaires majeurs.
Il y a clairement un côté vintage au Red Star. Le Red Star, ce qu'il a, est-ce que le PSG n'a pas encore ou n'a que partiellement, c'est une histoire. C'est un club qui est plus que centenaire. Le stade, il est lui-même plus que centenaire. Il est merveilleux ce stade. Quiconque a déjà mis des pieds en tribune à Bauer s'en rappellera toute sa vie, parce que c'est rare de voir encore des coursives métalliques, des lampadaires surannées, une gouttière qui fuit à la moitié du temps, mais on finit par s'y habituer. Et ce qui est certain, c'est que oui, ce côté historique, vintage si on veut, je pense participe de l'attrait du Red Star auprès de ce nouveau public qui peut être en quête d'un club qui a du sens, et ce sens, c'est son implantation en banlieue et son histoire, encore une fois, plus que centenaire.
C'était le Red Star, exil d'un club de football populaire, avec Gilles Saillant, Marcel D'Antoni, Louis, supporter, Vincent Chutemisance, Patrice Haddad, Pauline Gamer, Steve Marley, Florent Makidiouf. Attaché d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire d'Anna Benjamin et François Tess pour Sur les Docs.
Ce documentaire, vous pourrez le réécouter, le télécharger comme chaque jour sur franceculture.fr, la page de Sur les Docs.